France Inter. Les admirations littéraires de
Laurent Stocker, avec la complicité
de Yaël Eladad.
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de partager avec vous mes admirations littéraires, mes premières admirations littéraires, j'ai envie de dire, les textes qui ont été fondateurs pour moi. Je vous propose, en complicité avec Yaël Eladad, une série de 3 émissions. Alors, pour la première émission, j'ai choisi La princesse de Clèves.
Il était perdument amoureux et fort aimé d'une des plus belles personnes de la cour.
Je ne vois rien dans cela qui doive surprendre d'un homme tel que Monsieur de Nemours.
Ce qui est étonnant, c'est de savoir que cette femme, qui aime Monsieur de Nemours, ne lui en a jamais donné aucune marque, et que la peur de n'être pas toujours maîtresse de sa passion la lui a fait avouer à son mari.
Au milieu des fastes et des intrigues de cour, l'autrice, Madame de Lafayette, ose écrire un roman où l'essentiel n'est pas l'action, mais le secret des âmes.
N'est-ce pas une histoire à dormir debout ?
Ce roman du XVIIe siècle, il marque l'entrée de notre littérature dans l'âge de la modernité. Un âge où les silences et les regards ont autant de place que l'intrigue ou le décor historique. Alors, de regard précisément, il en sera beaucoup question dans le parcours que nous vous proposons. Celui d'abord que Madame Lafayette pose sur une société des apparences, où l'image compte plus que tout, sur les passions humaines, ainsi que sur la place des femmes dans un monde corseté par la bienséance. Le regard intérieur, aussi que nous, les humains, portons sur les passions qui nous animent jusqu'à l'incandescence, parfois jusqu'à nous consumer. Au fil des pages du roman, tout ceci est déployé avec une force, je dois dire avec une délicatesse, à travers des jeux très subtils de regards, de miroirs. Ça compose une sorte de chorégraphie des points de vue si maîtrisée qu'elle pourrait presque annoncer par instant le regard du cinéma. Voir, être regardé. Voir sans être vu, voir en train de voir. Alors, je choisis de commencer ces admirations littéraires par une autrice. N'oublions pas en effet que c'est au cours de ce même XVIIe siècle que les académiciens ont banni le mot « autrice » jusque-là en vigueur. Et que, fait très important, la princesse de Clèves a d'abord paru anonymement. L'auteur, était-il alors indiqué par l'éditeur, c'est par expérience que l'on condamne quelquefois les ouvrages sur la médiocre opinion qu'on a de l'auteur. Il demeure donc dans l'obscurité où il est pour laisser les jugements plus libres et plus équitables. Aujourd'hui pourtant, je dois dire que presque 4 siècles plus tard, le roman de Madame de Lafayette continue de nous parler, c'est le moins qu'on puisse dire, de ce que nous ressentons, de ce que nous taisons, de ce qu'il en coûte parfois d'être fidèle à soi-même, mais aussi et surtout d'un monde où chacun et chacune est en permanence observé, commenté, jugé et qui fait si étrangement écho à notre époque des réseaux sociaux, des masques et des faux-semblants. C'est au XVIe siècle que se situe l'histoire de notre héroïne, dont la rigueur morale est inédite. Mademoiselle de Chartres, jeune femme d'une beauté et d'une vertu remarquables, épouse le prince de Clèves, un homme droit et sincère. Mais elle vacille, parce qu'elle rencontre le duc de Nemours qui l'initie au désir amoureux. À l'issue d'un conflit intérieur déchirant, elle avoue son trouble à son mari, puis, fidèle à elle-même, renonce à l'amour et, dans ce retrait, conquiert sa plus grande liberté. Avant d'ouvrir ces premières pages, je veux ajouter que le roman a marqué la carrière d'un homme de théâtre qui m'est très cher, Marcel Bozonnet. Et j'ai envie de lire La princesse de Clèves parce que Marcel Bozonnet, qui était directeur du conservatoire lorsque j'y ai été admis et administrateur de la Comédie française qui m'y a fait entrer des années plus tard, il a joué ce spectacle pendant, je crois, 20 ans, même peut-être plus. Il était toujours seul sur scène. Il donnait corps et voix à La princesse de Clèves avec une économie de gestes et qui était absolument magnifique, presque comme du théâtre nu. Et comme c'est un homme de théâtre et un ami que je considère et que j'aime beaucoup, je voulais que nous lisions La princesse de Clèves aussi pour lui faire un petit clin d'œil. Alors l'extrait numéro 1 que nous allons vous lire, ça se passe dans la cour d'Henri II au XVIe siècle. Le prince de Clèves et le duc de Nemours. Alors nous entrons dans la cour d'Henri II avec Madame de Lafayette qui décrit à merveille les jeux mondains de séduction et de rivalité. C'est pas très difficile d'y deviner sa propre observation de la cour de Louis XIV, mais chut, nous sommes un siècle plus tôt. C'est l'ouverture du roman. Sous la grâce, tremble un monde de dissimulation des sentiments et se devine déjà la fragilité. L'autrice nous fait pénétrer par la grande porte dans ce décor somptueux avant de porter notre attention sur un homme remarquable, un certain prince de Clèves. La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclat que dans les dernières années du règne de Henri II. Ce prince était galant, bien fait et amoureux. Quoique sa passion pour Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, eut commencé il y avait plus de 20 ans, elle n'en était pas moins violente et il n'en donnait pas de témoignage moins éclatant. Comme il réussissait admirablement dans tous les exercices du corps, il en faisait une de ses plus grandes occupations. C'était tous les jours des parties de chasse et de paume, des balais, des courses de bagues ou de semblables divertissements. Les couleurs et les chiffres de Madame de Valentinois apparaissaient partout et elle paraissait elle-même avec tous les ajustements que pouvait avoir Mademoiselle de la Marck, sa petite fille, qui était alors à marier. La présence de la reine autorisait la sienne. Cette princesse était belle, quoiqu'elle eût passé sa première jeunesse. Elle aimait la grandeur, la magnificence et les plaisirs. Le roi l'avait épousée lorsqu'il était encore duc d'Orléans et qu'il avait pour aîné le dauphin, qui mourut à Tournon, prince que sa naissance et ses grandes qualités destinaient à remplir dignement la place de François Ier, son père. L'humeur ambitieuse de la reine lui faisait trouver une grande douceur à régner. Il semblait qu'elle souffrît sans peine l'attachement du roi pour la duchesse de Valentinois, et elle n'en témoignait aucune jalousie. Mais elle avait une si profonde dissimulation qu'il était difficile de juger de ses sentiments. Et la politique l'obligeait d'approcher cette duchesse de sa personne afin d'en approcher aussi le roi. Ce prince aimait le commerce des femmes, même de celles dont il n'était pas amoureux. Il demeurait tous les jours chez la reine à l'heure du cercle, où tout ce qu'il y avait de plus beau et de mieux fait de l'un et de l'autre sexe ne manquait pas de se trouver. Jamais cour n'a eu tant de belles personnes et d'hommes admirablement bien faits, et il semblait que la nature eût pris plaisir à placer ce qu'elle donne de plus beau dans les plus grandes princesses et dans les plus grands princes. Le duc de Nevers, dont la vie était glorieuse par la guerre et par les grands emplois qu'il avait eus, quoique dans un âge un peu avancé, faisait les délices de la cour. Il avait trois fils parfaitement bien faits. Le second, qu'on appelait le prince de Clèves, était digne de soutenir la gloire de son nom. Il était brave et magnifique. Et il avait une prudence qui ne se trouve guère avec la jeunesse. Le vidame de Chartres, descendu de cette ancienne maison de Vendôme, dont les princes du sang n'ont point dédaigné de porter le nom, était également distingué dans la guerre et dans la galanterie. Il était beau, de bonne mine, vaillant, hardi, libéral. Toutes ses bonnes qualités étaient vives et éclatantes. Enfin, il était seul digne d'être comparé au duc de Nemours, si quelqu'un lui eût pu être comparable. Mais ce prince était un chef-d'œuvre de la nature. Ce qu'il avait de moins admirable, c'était d'être l'homme du monde le mieux fait et le plus beau. Ce qui le mettait au-dessus des autres était une valeur incomparable et un agrément dans son esprit, dans son visage et dans ses actions que l'on n'a jamais vu qu'à lui seul. Il avait un enjouement qui plaisait également aux hommes et aux femmes, une adresse extraordinaire dans tous ses exercices, une manière de s'habiller qui était toujours suivie de tout le monde sans pouvoir être imitée, et enfin, un air dans toute sa personne qui faisait qu'on ne pouvait regarder que lui dans tous les lieux où il paraissait. Il n'y avait aucune dame dans la cour dont la gloire n'eût été flattée de le voir attaché à elle. Peu de celles à qui il s'était attaché pouvaient se vanter de lui avoir résisté, et même plusieurs à qui il n'avait point témoigné de passion n'avaient pas laissé d'en avoir pour lui. Il avait tant de douceur et tant de disposition à la galanterie qu'il ne pouvait refuser quelques soins à celles qui tâchaient de lui plaire. Ainsi, il avait plusieurs maîtresses, mais il était difficile de deviner celle qu'il aimait véritablement. Alors, quelques pages plus loin, apparaît celle qui va tout bouleverser, Mademoiselle de Chartres, d'une beauté et d'une vertu sans égale. Alors âgée de 15 ans, elle entre dans le roman comme on entre dans la lumière. Dans ce regard du prince de Clèves sur elle, déjà, se noue un destin. Mais je n'en dis pas plus, il est temps d'écouter.
Il parut alors une beauté à la cour qui attira les yeux de tout le monde. Et l'on doit croire que c'était une beauté parfaite, puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu où on était si accoutumé à voir de belles personnes. Elle était de la même maison que le vidame de Chartres et une des plus grandes héritières de France. Son père était mort jeune et l'avait laissée sous la conduite de Madame de Chartres, sa femme, dont le bien, la vertu et le mérite étaient extraordinaires. Après avoir perdu son mari, elle avait passé plusieurs années sans revenir à la cour. Pendant cette absence, elle avait donné ses soins à l'éducation de sa fille. Mais elle ne travailla pas seulement à cultiver son esprit et sa beauté, elle songea aussi à lui donner de la vertu et à la lui rendre aimable. La plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner. Madame de Chartres avait une opinion opposée. Elle faisait souvent à sa fille des peintures de l'amour. Elle lui montrait ce qu'il a d'agréable pour la persuader plus aisément sur ce qu'elle lui en apprenait de dangereux. Elle lui contait le peu de sincérité des hommes, leur tromperie et leur infidélité, les malheurs domestiques où plongent les engagements. Et elle lui faisait voir d'un autre côté quelle tranquillité suivait la vie d'une honnête femme et combien la vertu donnait d'éclat et d'élévation à une personne qui avait de la beauté et de la naissance. Mais elle lui faisait voir aussi qu'elle ne pouvait conserver cette vertu que par une extrême défiance de soi-même et par un grand soin de s'attacher à ce qui seul peut faire le bonheur d'une femme qui est d'aimer son mari et d'en être aimée. Cette héritière était alors un des grands partis qu'il y eut en France. Et quoi qu'elle fût dans une extrême jeunesse, l'on avait déjà proposé plusieurs mariages. Madame de Chartres, qui était extrêmement glorieuse, ne trouvait presque rien digne de sa fille. La voyant dans sa 16e année, elle voulut la mener à la cour.
Lorsqu'elle arriva, le vidame alla au-devant d'elle. Il fut surpris de la grande beauté de Mademoiselle de Chartres. Et il en fut surpris avec raison. La blancheur de son teint et ses cheveux blonds lui donnaient un éclat que l'on n'a jamais vu qu'à elle. Tous ses traits étaient réguliers, et son visage et sa personne étaient pleins de grâce et de charme. Le lendemain qu'elle fut arrivée, elle alla pour assortir des pierreries chez un Italien qui en trafiquait pour tout le monde. Cet homme était venu de Florence avec la reine et s'était tellement enrichi dans son trafic que sa maison paraissait plutôt celle d'un grand seigneur que d'un marchand. Comme elle y était, le prince de Clèves y arriva. Il fut tellement surpris de sa beauté qu'il ne put cacher sa surprise. Et Mademoiselle de Chartres ne put s'empêcher de rougir en voyant l'étonnement qu'elle lui avait donné. Elle se remit néanmoins, sans témoigner d'autre attention aux actions de ce prince que celle de la civilité lui devait donner pour un homme tel qu'il paraissait. Monsieur de Clèves la regardait avec admiration, et il ne pouvait comprendre qui était cette belle personne qu'il ne connaissait point. Il voyait bien par son air et par tout ce qui était à sa suite qu'elle devait être d'une grande qualité. Sa jeunesse lui faisait croire que c'était une fille, mais ne lui voyant point de mère, et l'Italien qui ne la connaissait point l'appelant madame, il ne savait que penser. Et il regardait toujours avec étonnement. Il s'aperçut que ses regards l'embarrassaient, contre l'ordinaire des jeunes personnes qui voient toujours avec plaisir l'effet de leur beauté. Il lui parut même qu'il était cause qu'elle avait de l'impatience de s'en aller, et en effet, elle sortit assez promptement. Monsieur de Clèves se consola de la perdre de vue, dans l'espérance de savoir qui elle était. Mais il fut bien surpris quand il sut qu'on ne la connaissait point. Il demeura si touché de sa beauté et de l'air modeste qu'il avait remarqué dans ses actions qu'on peut dire qu'il conçut pour elle, dès ce moment, une passion et une estime extraordinaires. Il alla le soir chez Madame, sœur du roi. Monsieur de Clèves y vint à son ordinaire. Il était si rempli de l'esprit et de la beauté de Mademoiselle de Chartres qu'il ne pouvait parler d'autre chose. Il conta tout haut son aventure et ne pouvait se lasser de donner des louanges à cette personne qu'il avait vue, qu'il ne connaissait point. Madame lui dit qu'il n'y avait point de personne comme celle qu'il dépeignait, et que, s'il y en avait quelqu'une, elle serait connue de tout le monde. Madame de Dampierre, qui était sa dame d'honneur et amie de Madame de Chartres, entendant cette conversation, s'approcha de cette princesse et lui dit tout bas que c'était sans doute Mademoiselle de Chartres que Monsieur de Clèves avait vue. Madame se retourna vers lui et lui dit que, s'il voulait revenir chez elle le lendemain, elle lui ferait voir cette beauté dont il était si touché. Mademoiselle de Chartres parut en effet le jour suivant. Elle fut reçue des reines avec tous les agréments qu'on peut s'imaginer et avec une telle admiration de tout le monde qu'elle n'entendait autour d'elle que des louanges. Elle les recevait avec une modestie si noble qu'il ne semblait pas qu'elle les entendît, ou du moins qu'elle en fût touchée. Elle alla ensuite chez Madame, sœur du roi. Cette princesse, après avoir loué sa beauté, lui conta l'étonnement qu'elle avait donné à Monsieur de Clèves. Ce prince entra un moment après.
« Venez, lui dit-elle, voyez si je ne vous tiens pas ma parole, et si, en vous montrant Mademoiselle de Chartres, je ne vous fais pas voir cette beauté que vous cherchiez. Remerciez-moi au moins de lui avoir appris l'admiration que vous aviez déjà pour elle. »
Monsieur de Clèves sentit de la joie de voir que cette personne qu'il avait trouvée si aimable était d'une qualité proportionnée à sa beauté. Il s'approcha d'elle et il la supplia de se souvenir qu'il avait été le premier à l'admirer et que, sans la connaître, il avait eu pour elle tous les sentiments de respect et d'estime qui lui étaient dus. Le prince de Clèves devint passionnément amoureux de Mademoiselle de Chartres et souhaitait ardemment de l'épouser.
Madame de Chartres dit à sa fille qu'il y avait tant de grandeur et de bonne qualité dans Monsieur de Clèves et qu'il faisait paraître tant de sagesse pour son âge que si elle sentait son inclination portée à l'épouser, elle y consentirait avec joie. Mademoiselle de Chartres répondit qu'elle lui remarquait les mêmes bonnes qualités, qu'elle l'épouserait même avec moins de répugnance qu'un autre, mais qu'elle n'avait aucune inclination particulière pour sa personne. Dès le lendemain, ce prince fit parler à Madame de Chartres. Elle reçut la proposition qu'on lui faisait et elle ne craignit point de donner à sa fille un mari qu'elle ne put aimer en lui donnant le prince de Clèves. Les articles furent conclus, on parla au roi et ce mariage fut su de tout le monde.
Clèves, votre femme est bien belle et bien jeune. N'êtes-vous pas heureux ?
Ah, oh, ben oui.
Ce mariage s'acheva. La cérémonie s'en fit au Louvre. Et le soir, le roi et les reines vinrent souper chez Madame de Chartres avec toute la cour, où ils furent reçus avec une magnificence admirable. Monsieur de Clèves ne trouva pas que Mademoiselle de Chartres eût changé de sentiment en changeant de nom. La qualité de mari lui donna de plus grands privilèges, mais elle ne lui donna pas une place dans le cœur de sa femme. Et quoiqu'elle vécût parfaitement bien avec lui, il n'était pas entièrement heureux. Il conservait pour elle une passion violente et inquiète qui troublait sa joie. La jalousie n'avait point de part à ce trouble. Jamais mari n'a été si loin d'en prendre et jamais femme n'a été si loin d'en donner. Elle était néanmoins exposée au milieu de la cour.
Not really sure how to feel about it, son, in the way you move. Makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. Want you to stay. Want you to stay. Without you, it takes me all away. I want you to stay.
Laurence Stocker lit La princesse de Clèves.
Poursuivons notre traversée sensible de La princesse de Clèves, car dans ce tourbillon de fêtes et de grâces, une rencontre se prépare. Ce soir-là, la cour brille de tout son éclat. On célèbre la venue de la duchesse de Lorraine et de son fils. Au cours du bal, des regards se cherchent, des masques tombent un instant. Dans le mouvement d'une danse, Madame de Lafayette écrit une des plus belles rencontres de la littérature française, celle de la princesse et du duc de Nemours. La langue de Madame de Lafayette reste retenue, presque silencieuse, et toujours pure musique. Mouvement, silence et pressentiment se répondent. Nous sommes à la cour d'Henri II, où l'on célèbre un bal donné pour accueillir la duchesse de Lorraine et son fils, venus négocier la paix. La duchesse de Lorraine, en travaillant à la paix, avait aussi travaillé pour le mariage du duc de Lorraine, son fils. Il avait été conclu avec Madame Claude de France, seconde fille du roi. Les noces en furent résolues pour le mois de février. Cependant, le duc de Nemours était demeuré à Bruxelles, entièrement rempli et occupé de ses desseins pour l'Angleterre. Il arriva à la veille des fiançailles. Et dès le même soir qu'il fut arrivé, il alla rendre compte au roi et recevoir ses ordres et ses conseils pour ce qui lui restait à faire. Il alla ensuite chez les reines. Madame de Clèves n'y était pas, de sorte qu'elle ne le vit point, et ne sut même pas qu'il fut arrivé. Elle avait ouï parler de ce prince à tout le monde, comme ce qu'il y avait de mieux fait et de plus agréable à la cour. Et surtout, Madame la Dauphine le lui avait dépeint d'une sorte et lui en avait parlé tant de fois qu'elle lui avait donné de la curiosité et même de l'impatience de le voir.
Elle passa tout le jour des fiançailles chez elle à se parer pour se trouver le soir au bal et au festin royal qui se faisait au Louvre. Lorsqu'elle arriva, l'on admira sa beauté et sa parure. Le bal commença. Et comme elle dansait avec Monsieur de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. Madame de Clèves acheva de danser, et pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Elle se tourna et vit un homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que Monsieur de Nemours, qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait. Ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile de n'être pas surprise de le voir quand on ne l'avait jamais vu. Surtout ce soir-là, où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air brillant qui était dans sa personne. Mais il était difficile aussi de voir Madame de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement.
Monsieur de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que lorsqu'il fut proche d'elle et qu'elle lui fit la révérence, il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. Quand ils commencèrent à danser, il s'éleva dans la salle un murmure de louanges. Le roi et les reines se souvinrent qu'ils ne s'étaient jamais vus et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se connaître. Ils les appelèrent, quand ils eurent fini, sans leur donner le loisir de parler à personne et leur demandèrent s'ils n'avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient et s'ils ne s'en doutaient point. « Pour moi, madame, dit Monsieur de Nemours, je n'ai point d'incertitude. Mais comme Madame de Clèves n'a pas les mêmes raisons pour deviner qui je suis que celles que j'ai pour la reconnaître, je voudrais bien que Votre Majesté eût la bonté de lui apprendre mon nom. Je crois, dit Madame la Dauphine, qu'elle le sait aussi bien que vous savez le sien. »
« Je vous assure, madame, reprit Madame de Clèves, qui paraissait un peu embarrassée, que je ne devine pas si bien que vous pensez. »
« Vous devinez fort bien, répondit Madame la Dauphine. » Et il y a même quelque chose d'obligeant pour Monsieur de Nemours à ne vouloir pas avouer que vous le connaissez sans jamais l'avoir vu. La reine les interrompit pour faire continuer le bal. Monsieur de Nemours prit la reine dauphine. Cette princesse était d'une parfaite beauté et elle avait paru telle aux yeux de Monsieur de Nemours avant qu'il allât en Flandre. Mais de tout le soir, il ne put admirer que Madame de Clèves. Le désir fait alors irruption dans le roman à pas feutrés. La princesse et le duc se sont reconnus sans un mot. Chaque rencontre désormais, chaque regard, porte le secret de ce moment. Madame de Lafayette déploie la discrète mécanique des sentiments, opérant des glissements retenus vers l'intime, comme dans ses célèbres pages du vol du portrait. La légèreté apparente de la scène contraste avec l'intensité masquée du geste. Ici, le trouble prend corps dans un objet et les jeux de regard. La reine dauphine faisait faire des portraits en petit de toutes les belles personnes de la cour pour les envoyer à la reine sa mère. Le jour qu'on achevait celui de Madame de Clèves, Madame la dauphine vint passer l'après-dîner chez elle. Monsieur de Nemours ne manqua pas de s'y trouver. Il ne laissait échapper aucune occasion de voir Madame de Clèves, sans laisser paraître néanmoins qu'il les cherchât. Elle était si belle ce jour-là qu'il en serait devenu amoureux quand il ne l'aurait pas été. Il n'osait pourtant avoir les yeux attachés sur elle pendant qu'on la peignait, et il craignait de laisser trop voir le plaisir qu'il avait à la regarder.
Madame la Dauphine demanda à Monsieur de Clèves un petit portrait qu'il avait de sa femme, pour le voir auprès de celui que l'on achevait. Tout le monde dit son sentiment de l'un et de l'autre, et Madame de Clèves ordonna au peintre de raccommoder quelque chose à la coiffure de celui que l'on venait d'apporter. Le peintre, pour lui obéir, ôta le portrait de la boîte où il était, et après y avoir travaillé, il le remit sur la table.
Il y avait longtemps que Monsieur de Nemours souhaitait d'avoir le portrait de Madame de Clèves. Lorsqu'il vit celui qui était à Monsieur de Clèves, il ne put résister à l'envie de le dérober à un mari qu'il croyait tendrement aimé. Et il pensa que, parmi tant de personnes qui étaient dans ce même lieu, il ne serait pas soupçonné plutôt qu'un autre.
Madame la Dauphine était assise sur le lit et parlait bas à Madame de Clèves, qui était debout devant elle. Madame de Clèves aperçut par un des rideaux, qui n'était qu'à demi fermé, Monsieur de Nemours, le dos contre la table qui était au pied du lit. Et elle vit que, sans tourner la tête, il prenait adroitement quelque chose sur cette table. Elle n'eut pas de peine à deviner que c'était son portrait. Et elle en fut si troublée que Madame la Dauphine remarqua qu'elle ne l'écoutait pas et lui demanda tout haut ce qu'elle regardait.
Monsieur de Nemours se tourna à ces paroles. Il rencontra les yeux de Madame de Clèves, qui étaient encore attachés sur lui. Et il pensa qu'il n'était pas impossible qu'elle eût vu ce qu'il venait de faire.
Madame de Clèves n'était pas peu embarrassée. La raison voulait qu'elle demandât son portrait. Mais en le demandant publiquement, c'était apprendre à tout le monde les sentiments que ce prince avait pour elle. Et en le lui demandant en particulier, c'était quasi l'engager à lui parler de sa passion. Enfin, elle jugea qu'il valait mieux le lui laisser. Et elle fut bien aise de lui accorder une faveur qu'elle lui pouvait faire sans qu'il sût même qu'elle la lui faisait.
Monsieur de Nemours, qui remarquait son embarras et qui en devinait quasi la cause, s'approcha d'elle et lui dit tout bas « Si vous avez vu ce que j'ai osé faire, ayez la bonté, madame, de me laisser croire que vous l'ignorez. Je n'ose vous en demander davantage. » Et il se retira après ces paroles et n'attendit point sa réponse. Madame la Dauphine sortit pour s'aller promener, suivie de toutes les dames, et Monsieur de Nemours alla se renfermer chez lui, ne pouvant soutenir en public la joie d'avoir un portrait de Madame de Clèves. Il sentait tout ce que la passion peut faire sentir de plus agréable. Il aimait la plus aimable personne de la cour, il s'en faisait aimer malgré elle, et il voyait dans toutes ses actions cette sorte de trouble et d'embarras que cause l'amour dans l'innocence de la première jeunesse. Le soir, on chercha ce portrait avec beaucoup de soin. Comme on trouvait la boîte où il devait être, l'on ne soupçonna point qu'il eût été dérobé, et l'on crut qu'il était tombé par hasard. Monsieur de Clèves était affligé de cette perte. Et après qu'on eût encore cherché inutilement, il dit à sa femme, mais d'une manière qui faisait voir qu'il ne le pensait pas, qu'elle avait sans doute quelque amant caché à qui elle avait donné ce portrait ou qui l'avait dérobé, et qu'un autre qu'un amant ne se serait pas contenté de la peinture sans la boîte.
Laurent Stocker lit La princesse de Clèves.
Pour conclure, retrouvons Madame de Clèves qui s'est retirée de la cour dans sa maison de campagne à Coulommiers. Nemours s'y rend secrètement. Il se cache dans le jardin pour observer la femme qu'il aime. Il aperçoit la princesse qui, ne se sachant pas observée, est occupée à arranger ses rubans, un geste intime et gracieux. Et je dois dire que c'est la scène préférée d'Yaël. C'est une scène muette, d'une intensité presque cinématographique, où le regard devient aveu et le silence tragédie. Les palissades étaient fort hautes, et il y en avait encore derrière, pour empêcher qu'on ne pût entrer. En sorte qu'il était assez difficile de se faire passage. Monsieur de Nemours en vint à bout néanmoins. Sitôt qu'il fut dans ce jardin, il n'eut pas de peine à démêler où était Madame de Clèves. Il vit beaucoup de lumière dans le cabinet. Toutes les fenêtres en étaient ouvertes. Et en se glissant le long des palissades, il s'en approcha avec un trouble et une émotion qu'il est aisé de se représenter. Il se rangea derrière une des fenêtres, qui servait de porte, pour voir ce que faisait Madame de Clèves. Il vit qu'elle était seule, mais il la vit d'une si admirable beauté qu'à peine fut-il maître du transport que lui donna cette vue. Il faisait chaud, et elle n'avait rien sur sa tête et sur sa gorge, que ses cheveux confusément rattachés.
Elle était sur un lit de repos, avec une table devant elle où il y avait plusieurs corbeilles pleines de rubans. Elle en choisit quelques-uns et Monsieur de Nemours remarqua que c'était des mêmes couleurs qu'il avait portées au tournoi. Il vit qu'elle en faisait des nœuds à une canne des Indes, fort extraordinaire, qu'il avait portée quelque temps et qu'il avait donnée à sa sœur, à qui Madame de Clèves l'avait prise, sans faire semblant de la reconnaître pour avoir été à Monsieur de Nemours. Après qu'elle eut achevé son ouvrage avec une grâce et une douceur que répandaient sur son visage les sentiments qu'elle avait dans le cœur, elle prit un flambeau et s'en alla proche d'une grande table, vis-à-vis du tableau du siège de Metz, où était le portrait de Monsieur de Nemours. Elle s'assit et se mit à regarder ce portrait avec une attention et une rêverie que la passion seule peut donner.
On ne peut exprimer ce que sentit Monsieur de Nemours dans ce moment. Voir au milieu de la nuit, dans le plus beau lieu du monde, une personne qu'il adorait, la voir sans qu'elle sût qu'il la voyait, et la voir tout occupée de choses qui avaient du rapport à lui et à la passion qu'elle lui cachait, c'est ce qui n'a jamais été goûté ni imaginé par nul autre amant. Cette émission a été préparée par Perrine Malinge. Prise de son, Pauline Laverdure. Réalisation, Maria Pasquet. La semaine prochaine, on va passer du tout au tout, on va aller dans un rire cosmique, dans un rire qui est bienfaiteur, c'est Rabelais avec son fameux Gargantua. Bonne soirée sur France Inter et à la semaine prochaine.